Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme chaque mardi, aujourd'hui mardi 8 avril, non 9 avril pardon 2024, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles.
Bonjour, bonjour.
Et alors aujourd'hui, je dois dire que déjà l'actualité de la semaine elle est assez pauvre, il se passe pas grand chose. Cependant, la semaine dernière j'ai vu quelque chose qui m'a fait un petit peu rire et qui m'a fait aussi un petit peu réfléchir. C'est en fait le mouvement que je connaissais pas d'ailleurs, qui commence à s'importer un petit peu en France, le mouvement des Sovereign Citizens. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est, les Sovereign Citizens, mais c'est une belle bande d'allumés, mais je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu dessus quand même. Donc je vais présenter un peu le mouvement pour les gens qui connaissent pas. En gros, ce mouvement des Sovereign Citizens, c'est une mouvance alors qui vient des États-Unis, qui repose essentiellement sur l'idée selon laquelle en fait la plupart des lois seraient totalement illégales et ne s'appliqueraient pas à tout un tas de citoyens. En priorité, dont eux, hein, en priorité, puisque en fait ils n'ont pas contracté avec l'État, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à se voir appliquer ces lois, donc il s'agit d'avoir sa propre interprétation de la légitimité d'une loi, et ça va aussi évidemment avec l'impôt. D'ailleurs, ça part de là à la base. C'est un mouvement c'est un mouvement réfractaire vis-à-vis du paiement de l'impôt, et puis en fait ça s'est élargi à tous les domaines à peu près de la vie civile. Donc ils acceptent certaines lois comme l'interdiction du meurtre, l'interdiction du viol, voilà des trucs vraiment qui relèvent même en fait, on a envie de dire du droit naturel, mais tout ce qui est le droit civil, l'immensité même du droit pénal, c'est-à-dire par exemple le code de la route, ça ne doit pas s'appliquer à eux. Donc eux, voilà, ils n'ont pas contracté avec l'État, donc ils peuvent emprunter la route et aller à 170 sans se faire contrôler par la police. Et d'ailleurs, lorsque c'est le cas, c'est comme ça que ça a buzzé en France d'ailleurs, c'est un couple de Français qui ont été interpellés sur la route, ils se sont filmés. Donc les flics essayent de les contrôler, de les arrêter, et ils refusent de décliner leur identité, parce que leur identité aussi serait fausse, puisqu'elle a été donnée par l'État, en fait. Donc ils pensent que leur nom n'est pas leur vrai nom. Ils disent, voilà, je ne contracte pas, donc je n'ai pas à vous donner quoi que ce soit, je n'ai pas à me soumettre à votre autorité, parce que votre autorité ne relève en rien de mon contrôle. Et voilà. Et donc, bon, évidemment, la vidéo se termine un petit peu mal. Le flic casse la vitre de la voiture, et se coupe, donc, de Français a été arrêté. Et pour ce qui est des États-Unis, parce que ça existe depuis les années 70, là-bas, évidemment, il y a plein de gens aussi qui ont été arrêtés pour des mêmes motifs, pour fraude fiscale, pour, voilà, pareil, pour des délits commis sur la route. Et derrière, ils sont persuadés que l'autorité de la police et que l'autorité de la justice ne s'appliquent pas à eux. Donc aussi au tribunal, devant le juge, ils disent « mais en fait, je n'ai pas à être jugé par vous ». À la fin, bon, ils terminent quand même soit à payer des amendes, soit ils terminent en prison. C'est dans les faits quand même ce qui se passe. Donc il y a l'idée derrière que l'État en fait n'est pas une entité publique, l'État ne jouit pas de prérogatives de puissance publique, puisque c'est un acteur privé. Et donc, bah, par exemple, ce couple de Français, je sais pas d'où ils tirent cette information, mais ils disent, voilà, l'État français a un numéro de SIRET, il est domicilié au Delaware, donc c'est une entreprise étrangère, donc en fait...
Ils sont complètement cinglés.
Voilà, alors, ils sont complètement cinglés, voilà.
Non, parce que l'État français qui a un numéro de SIRET... ça me paraît...
Je sais même pas d'où ils ont tiré cette information, comment ils ont pu la croire. Enfin, je veux dire, c'est complètement lunaire, hein, bien
donc,
évidemment.
Alors, oui, très bien. Et qu'est-ce que...
Je voudrais qu'on réfléchisse là-dessus quand même, parce que, évidemment, la chose la plus facile et la plus évidente à dire, c'est que c'est un couple d'allumés. Tous ceux qui pensent ça au premier
degré...
Mais
ils ont un passeport, non ?
Ah bah oui, oui, j'imagine qu'ils ont une carte d'identité.
Mais s'ils sont rentrés aux États-Unis, ils sont rentrés avec un passeport.
Ah non, mais ce couple-là, ils étaient en France.
Bah, ils étaient en France, on les a arrêtés en France.
Oui, ils ont été arrêtés en France, oui.
Ah oui, je croyais que c'était aux États-Unis.
Non,
donc oui, bah, ils doivent avoir, je sais pas, une carte d'identité. Ils ont un permis de conduire, non ?
Bah j'imagine, oui, quand même.
Peut-être pas, place d'assurance, pas de permis de conduire.
Peut-être pas, oui, c'est une possibilité. Enfin voilà, c'est un couple d'allumés. Maintenant, je me pose une question. Est-ce que ce mouvement, s'il s'importe, s'il commence à s'importer en France, bon, c'est vraiment très très marginal, hein, on parle pas de centaines de milliers de personnes, mais c'est quelques personnes qui ont été, je pense quand même on peut dire le mot gouroutisées, parce qu'il y a un peu un phénomène de secte, mais est-ce que c'est pas aussi une espèce de réponse réflexe à une présence de l'État partout, tout le temps, dans tous les domaines de la société?
C'est possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quelque part, ils pensent que la souveraineté individuelle est supérieure et antérieure à celle de l'État. Je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que ma liberté individuelle, elle ne m'a pas été donnée par un État, mais c'est moi qui ai donné la possibilité à l'État de vivre. Mais la question essentielle, c'est est-ce qu'on peut vivre sans un État ? La vraie réponse, si vous voulez, elle a été donnée par... Il y a Locke, bien sûr, et il y a Hobbes. Alors Hobbes, il disait qu'un monde sans État, c'était un endroit où les vies étaient brèves et violentes. Donc c'était là, et puis...
Oui, c'est sûr.
Donc Locke a dit, écoutez, on a besoin d'un État, mais ce qu'il faut, c'est que les citoyens le contrôlent. Donc, j'en ai souvent parlé ici, par le vote, par l'argent, par toute une série de choses. La justice, les jurys. Mais on ne peut pas vivre dans une société, me semble-t-il, sans que le citoyen reconnaisse qu'il a délégué le pouvoir de taper sur les autres au cas où les autres voudraient taper sur lui. Quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Il ne peut pas y avoir de justice privée, il ne peut pas y avoir de police privée, il ne peut pas y avoir de... Donc, c'est une idée qui est intéressante, mais à ce moment-là, il faut qu'ils aillent vivre au fin fond de l'Amazonie, quoi. Peuvent pas vivre dans un pays civilisé.
Oui, oui, c'est sûr. Et puis, pareil, il y a une contradiction, je trouve. C'est-à-dire, à quel moment on peut choisir vraiment si on contracte ou si on contracte pas. S'il y a pas, par exemple, sur le code de la route, à partir du moment où vous empruntez la route, c'est comme une sorte de contrat dans lequel
vous pouvez rouler dans le sens inverse de l'autoroute, quoi.
Vous dites, en empruntant cette route, je respecte les règles de cette route. Or, les règles de cette route, elles sont assez claires. Vous n'allez pas à 120 sur, enfin, à 140 sur une départementale, quoi.
C'est une espèce d'absolutisme individuel qui empêche toute vie en société. Donc, c'est dans le fond une ânerie, quoi. C'est une grosse ânerie. Mais je vous donne un autre exemple. C'est bon, ils ne veulent pas utiliser le code de la route, mais ils utilisent le français. Ils l'ont appris de quelqu'un, ça leur a été transféré par l'école ou j'en sais rien, par leurs parents. À ce moment-là, ces gars-là devraient inventer leur propre
langage, oui.
Chacun doit avoir un langage différent.
Oui, c'est vrai.
Puisque ce serait le...
Oui, il pourrait.
Donc si chacun a un langage différent, la compréhension va être difficile, quoi, entre eux.
Et cela dit, vous savez que ça existe, hein, notamment dans... Alors,
il y a des cinglés partout, hein.
Mais voilà, il y a notamment une féministe, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui féminise totalement la langue française. C'est-à-dire, elle dit par exemple « elle pleut »,« elle neige ». Elle féminise absolument tout. Donc c'est assez original, c'est totalement inaudible. Mais je trouve ça rigolo.
Oui, mais je veux dire, c'est le stade ultime du narcissisme.
C'est vrai.
C'est-à-dire que le type se considère tellement important. Le but dans une vie, c'est pas de considérer qu'on est le centre du monde. C'est communiquer au mieux avec ceux qui sont autour de vous pour avoir une vie à peu près harmonieuse. Mais l'idée que vous allez avoir un langage à vous et tout, c'est... notre société est en train d'arriver à un maximum de narcissisme. Et j'ai pas l'impression que les gens soient plus heureux, mais...
Ah non, je pense pas que les gens soient plus heureux. Peut-être au contraire, le fait de ne pas accepter les règles de la société, je pense, met dans un état d'esprit qu'on est dans une grande injustice.
Oui, les gens ne me considèrent pas à ma vraie valeur, mais J'ai eu une discussion récemment avec une amie qui m'a beaucoup troublé. C'est... on discutait comme ça tranquillement à déjeuner et elle m'a dit, mais moi, mon but dans la vie, c'est d'être indépendante. Alors j'ai regardé, bon, après tout, si ça lui fait plaisir, mais moi, mon but dans la vie, ça n'a jamais été d'être indépendant, c'est d'être dépendant de gens que j'aime bien.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est que... Ma femme est devant. Je veux dire par là, c'est que je cherche à être dépendant, qu'ils fassent ce qui m'emmerde, que moi je fais ce qui les emmerde, et puis tout, on sera tous beaucoup plus contents.
Oui.
Donc l'idée d'être indépendant est une idée complètement folle. On peut pas être indépendant. Ça veut dire quoi d'être indépendant?
Oui, ça ne veut pas dire grand-chose, à part... oui,
c'est, à part c'est, que c'est je vais vivre comme un gros égoïste, mais non, ouais. Mais c'est pas le but dans la vie.
À ce moment-là, faut moi aller j'adore être dépendant. Là,
si quelqu'un s'occupe de moi, je suis très content.
Oui.
C'est vrai, quoi. Non, mais cette histoire d'indépendance individuelle, c'est le contraire même de la définition du bonheur, quoi.
Ouais.
C'est, si je sais pas que je suis utile à des gens à l'extérieur et si je trouve pas avec bonheur que des gens veulent bien s'occuper de moi, à quoi ça sert que je vive? Autant vivre dans mon studio, dans la chambre de bonne là-haut, au 7e.
C'est-à-dire, cette personne, elle veut vivre de manière totalement indépendante ou elle a parlé uniquement d'indépendance, je sais pas, financière, par exemple?
Non, elle avait l'air de penser que là... L'indépendance, c'est de vivre en proclamant son indépendance, ça prouvait qu'elle était une adulte. Moi, je sais pas, je disais pou. Moi, je suis être indépendant, c'est chiant, quoi.
Oui,
à ce moment-là, vous vous mettez moine quelque part au fin fond de l'Ariège.
Oui, encore même moine dans un monastère, quand même.
Non, si vous êtes un ermite, vous pouvez être dans une grotte, là.
Oui,
mais vous êtes un peu censé communiquer avec Dieu, donc je sais pas. Mais cette idée d'indépendance, de « je suis le centre du monde », c'est quand même un drôle de truc.
Bah, l'homme est quand même un animal social.
Mais non.
On vit pas tout seul, en principe.
Et puis, ce qui va se passer dans ces sociétés-là, si jamais on y arrive, mais on y va quand même. Ça s'appelle l'anomie, c'est-à-dire en termes juridiques, c'est un endroit où les lois ne sont pas respectées.
Ouais.
Bon, ça s'appelle l'anomie. Bon, vous êtes tranquille dans un sens interdit, dans le bon sens, et puis vous avez un gars qui arrive dans le mauvais sens et qui vous tue. Quoi.
Oui,
bon.
Parce qu'il estime que lui, il est dans
lui, il est au-dessus de ça. Bon sens, non, oui. Donc, si vous voulez, l'anomie, c'est vraiment la fin de toute civilisation.
Ah oui, évidemment, c'est la fin de la société. C'est-à-dire, on arrête de dire qu'on a un groupe qui vit avec les mêmes règles et on commence à s'inventer.
On est content de vivre ensemble.
Oui. Et on s'invente chacun des règles à soi et forcément, à la fin, va y avoir des conflits. C'est sûr, c'est vrai que c'est totalement narcissique.
En parlant de la compréhension aussi, moi, si j'étais un être comme ça, je dirais que tout le monde devrait savoir que en cas de priorité sur la route, c'est toujours moi qui ai la priorité. Bon. Mais c'est difficile à faire respecter, parce que s'il y en a deux qui ont cette règle,
oui.
On va se cogner. Hein.
Oui, en principe, oui.
On va se cogner, et puis il y en a deux. Donc, c'est d'une imbécilité crasse. Mais je crois que, dans le fond, la base de notre société aujourd'hui, c'est qu'on devient de plus en plus con. À force de vouloir être indépendant, on devient tous de plus en plus con.
C'est une possibilité.
Ça expliquerait beaucoup de choses.
Oui.
C'est ce que me disait mon professeur de sciences politiques il y a très longtemps à Toulouse. Il me disait, vous savez, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tout le monde vous parle de complot. En principe, la connerie, c'est quand même la première explication. Puis quand vous avez éliminé la connerie, vous pouvez passer à la deuxième.
Mais oui.
99,9% des cas, c'est ça, c'est simplement de la connerie.
Effectivement, c'était il y a quelques jours, j'ai vu un tweet justement du mec, l'intervieweur de Thinkerview, là. Et leur chaîne en témoigne, ils ont quand même reçu pas mal de gens, des gens qui sont dans la politique, qui sont dans toutes les sphères de pouvoir, des ministres, des députés, des diplomates, voilà. Et il a dit quelque chose qui, à mon avis, est très vrai. Il a dit, tant d'années d'expérience à avoir interviewé toutes ces personnes, je suis formel sur le fait que ils ont, notre classe dirigeante, a une capacité d'anticipation d'un enfant de 4 ans. Enfant de 4 ans ou pas, peut-être, c'est une possibilité.
Ça me paraît très désagréable pour l'enfant de 4 ans.
Oui, peut-être. Ouais. Alors, effectivement...
Je crois qu'il est très sévère avec l'enfant de 4 ans. Moi, j'aurais dit, ils ont la capacité d'anticipation du DAF, là. C'est-à-dire que s'il y a un bout de viande sous le nez, il se précipite.
Vous inquiétez pas, que le DAF anticipe très bien dès que je viens ici qu'il y a un sandwich au poulet dans le coin. Ça, il anticipe.
Ça, il anticipe, mais c'est à peu près la seule chose qu'il anticipe, donc si vous voulez. Oui, ça. Non, mais cette espèce d'être centré sur l'individu, ce qu'il pense, ça me rappelle toujours la vieille histoire de ce Rubinstein, là, qui était un pianiste remarquable. J'avais lu ses mémoires, elle était reçue par une dame très importante. Donc, à la fin du concert qu'il avait donné chez cette dame, la dame se précipite sur lui et disait « Maître, maître, vous savez, je n'aime pas du tout Beethoven. » Et Rubinstein la regarde et lui dit « Mais madame, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle n'aime pas Beethoven ?» Donc, vous avez tout un tas de gars qui me font des déclarations profondes sur ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, et je ne peux pas m'empêcher de leur dire « Mais ça n'a aucune importance. » Ce que pensait Rubinstein de Beethoven, c'était peut-être intéressant parce qu'il y avait passé sa vie. Mais la dame en question.
Oui.
Qu'est-ce qu'on s'en fout?
Oui, c'est
donc,
pas faux.
Cette espèce d'extraordinaire capacité. Moi, c'est comme quand il y a des endroits où je me considère comme vaguement compétent, l'économie, la science politique, l'histoire. J'ai beaucoup bossé là-dessus, donc j'en sais peut-être un peu plus que les autres, et encore. Mais quand on me pose des questions sur l'art contemporain ou l'opéra.
Oh là là.
Je suis d'une discrétion.
Ah oui.
sur ce, mais total. Hein,
ouais.
Donc, penser que l'opinion. Donc, les gens se surestiment ce que je pense est important. Mais non. Si on est Raymond Aron, genre, René Girard, oui, de temps en temps, il y a des trucs qui, en effet, sont des pensées importantes, mais. Et la même dame lui avait dit, il était juif, ce bon Rubinstein, comme son nom l'indique. Et elle lui avait dit, maître, je suis très gêné, mais je vous demanderai de ne pas rester avec mes invités après, c'était dans les années 30, après le concert. Il avait dit, madame, dans ce cas-là, ça sera moitié prix.
Effectivement, c'est
donc
ça fait drôle.
Je trouve ça. La vanité des gens est inimaginable.
Oui, effectivement. Je pense que on est dans une ère du narcissisme.
Mais complet.
On est dans une ère, effectivement, du repli sur soi, qui n'est pas vraiment tout à fait un individualisme comme ce qu'on accepte, comme ce qu'on comprend quand même dans toute l'histoire de la civilisation occidentale. C'est un narcissisme couplé d'une sorte d'égoïsme. C'est-à-dire que moi je pense mieux que le reste du monde.
Non, mais ce que je pense...
A une importance,
et il faut que les autres prennent en compte ma pensée. Mais si t'as envie de prendre un truc en sens unique, mon grand, si jamais tu me fais un accident et que j'ai quelqu'un, je te casse la gueule, quoi.
Non, mais ça relève de l'incapacité, quand même, de vivre en société. Parce que moi, par exemple, j'ai un réflexe à chaque fois lorsque... quand je prends la route, par exemple, que quelqu'un me klaxonne, etc., j'ai avant tout le réflexe de me dire, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je me mets avant tout dans la perception de l'autre. Je me dis, est-ce que, de son point de vue, j'ai fait quelque chose que je devais pas faire ou pas? Et puis après, je me dis, oui, mais moi, j'estime quand même que j'ai mes raisons de faire ce que j'ai fait.
Par exemple, vous êtes à 140, voilà. Vitesse maximum, sur l'autoroute à gauche. Les autres lignes sont bloquées par des voitures, des camions, etc. Vous avez un gars qui arrive à 200 à l'heure et qui vous fait des appels code phare et tout. Moi, je suis à 140, j'ai pas envie d'aller me faire cracher dans la voiture à droite.
Oui, bien sûr.
Donc, si j'ose dire, je lui fais le geste qui sauve.
Ouais. C'est vrai que ça peut être le geste qui sauve, pour le coup.
Pour le coup, donc vous avez comme ça toute une série de trucs qui me laissent... Moi, quand j'étais jeune à Toulouse, c'est une autre connerie, tiens, je vais raconter... Quand j'étais jeune à Toulouse, je faisais mes études, quand un type me faisait des coups comme ça, parce que les Toulousains ont une conduite assez sportive, assez agressive, enfin à mon époque ils l'avaient du moins, ils respectaient pas toujours le code quand même. Donc j'attendais qu'il soit à peu près à la hauteur de ma portière, et puis j'ouvrais ma fenêtre, hein, et qu'il commençait à m'insulter bien sûr. Et je leur disais toujours, va donc être gaulliste.
Ah oui.
Et donc le type, soit dans les années 60, il n'y avait pas beaucoup de gaullistes à Toulouse, ils étaient tous à gauche, et donc soit il était gaulliste et il était vexé parce qu'il ne comprenait pas pourquoi c'était une insulte, soit ils n'étaient pas gaullistes, et à ce moment-là ils étaient vexés comme tout d'être traités de gaullistes.
Ouais.
c'est la meilleure insulte que j'ai jamais trouvée, gaulliste.
Effectivement, c'est...
Je trouvais ça très très bien.
Ouais, ça doit être assez efficace, effectivement.
Ouais, ça marchait. Mais ça, je suis sûr que ça marchait encore. Va donc, et gaulliste.
Ouais. Oui, c'est
je suis sûr que je vais peut-être la ressortir, tiens, parce que je suis en deux roues tout le temps.
Oui, c'est vrai.
Je pourrais la lâcher aux autres deux roues, tiens, gaulliste.
Bah, vous m'en direz des nouvelles, surtout. Ouais, peut-être à Paris, ça peut peut-être marcher encore.
Mais donc, maintenant tout le monde est gaulliste. Alors.
Oui, c'est vrai que maintenant, on sait plus trop ce que ça veut dire. Vous pouvez être gaulliste, un peu comme un
Mélenchon
peu
est gaulliste.
Quoi. Mélenchon est gaulliste.
À gauche est gaulliste.
Zemmour est gaulliste. Marine Le Pen est gauliste. Macron est gaulliste. Donc, finalement, le gaullisme, bon, qu'est-ce que c'est?
Ça veut dire fromage blanc, quoi.
Ouais, ça veut un peu dire ça. De toute façon, les personnages de l'histoire, c'est toujours pareil. Soit vous arrivez à, entre guillemets, les cancel, les annuler, convaincre tout le monde que c'était un mauvais personnage, soit tout le monde doit s'y convertir. Bon, le général de Gaulle est trop grand, trop immense pour se faire annuler, donc il est repris par absolument tout le monde, alors qu'évidemment, un mec comme Mélenchon aurait détesté de Gaulle les premiers, quoi. Il faut se souvenir des affiches du Parti communiste français à l'époque.
Ou de socialistes et de Mitterrand qui parlait du coup d'État permanent.
Voilà, exactement. Donc,
c'était la meilleure que je connaissais sur le gaullisme, c'était Massu, qui était un camarade de promotion de mon père. Il avait pas la réputation d'être très intelligent. Il était convaincu de mal, mais. Et donc, il va voir de Gaulle, alors qu'il lui dit. Alors, Massu lui dit de Gaulle, toujours aussi con, parce que tout le monde savait qu'il était con. Et il y a de Massu qui lui répond, oui, mon général, toujours gaulliste.
Très belle réponse. c'est des hommes, même s'ils étaient cons, ils pouvaient avoir de l'esprit quand même. Peut-être davantage qu'aujourd'hui, je pense. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est les élections européennes. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas reparlé. Et alors, les élections européennes, je dois dire que je ne sais pas si... Les Français ont vraiment le sentiment que la campagne a vraiment commencé. Je ne sais pas si ça les intéresse vraiment, cette campagne, parce qu'il semblerait que déjà une majorité de Français n'a aucune idée de qui sont les têtes de liste.
Il faut dire, comme ils sont complètement transparents,
ouais.
Et on ne sait pas pourquoi ils sont là, ni qui les a collés, etc., qu'on ne voit pas pourquoi ils les connaîtraient, quoi. Donc je sais pas, mais
je pense que la plupart connaissent peut-être Jordan Bardella quand même, voilà.
Il y en a deux qui sont connus, c'est peut-être Jordan Marion. Bardella et Marion, voilà. Et qui ont un avantage, c'est qu'ils sont tous les deux assez beaux. Donc déjà ça aide.
C'est vrai que c'est un avantage.
Bah oui, hein. Moi j'avais vu des études quand j'étais jeune où quand on passait ses examens, il valait mieux être beau que laid et passer après le déjeuner qu'avant le déjeuner, quoi. C'était des trucs. Si vous étiez beau, vous passiez après le déjeuner, vous cartonniez, quoi.
Ah oui, oui.
Vous aviez le brosseur, il n'était pas indulgent avant le déjeuner. Hein. Donc, vous faisiez de votre mieux pour être. Donc, le type qui arrive tout crasseux à son examen à l'oral, il y a quelque chose qui échappait, là.
Oui, c'est vrai.
Il a intérêt à arriver bien propre sur lui, bien mis et tout. Sauf si son professeur est de gauche à ce moment-là, c'est pas sûr.
Ouais, peut-être pas, oui. Il faut pas avoir l'air trop propre sur soi non plus. Faut bien doser.
Faut doser, c'est ça, c'est.
Mais
c'est
du coup,
difficile, les examens.
Ces élections européennes, alors par exemple, vis-à-vis de l'état des sondages, c'est très très stable. Le Rassemblement national est à 30% à peu près. La liste de Valérie Ayé, donc de Renaissance, elle est en dessous des 20, vers 17%, quelque chose comme ça. C'est assez stable. Il y a éventuellement juste la liste de Raphaël Glucksmann pour le PS qui performe un peu mieux que prévu, qui est aux alentours de 12%, quelque chose comme ça. Voilà, quoi. C'est vraiment ça, les résultats en France. Je veux dire, je saurais pas vraiment comment les interpréter, à part juste le résultat du Rassemblement National qui serait vraiment un record assez exceptionnel. Mais sinon, je dois dire que là, il y a pas grand chose qui bouge. Il y a quelques débats qui sont plus ou moins intéressants. Hier soir, Valérie Ayé contre Marion.
Enfin, oui, bon. Enfin, là j'ai écouté un petit peu, mais j'ai eu du mal parce que il y avait une des deux qui parlait là, qui avait une voix qui était une espèce de voix de Crécelle, et du coup elle parlait toutes les deux en même temps. Il y avait la voix de Crécelle qui dominait, mais pas suffisamment pour qu'on comprenne ce qu'elle dit. Et donc c'était comme un peu la voix de Crécelle et puis une voix beaucoup plus sourde. Et donc on savait qu'elle parlait toutes les deux en même temps, qu'elle parlait de deux choses différentes, oui. Qu'elle s'intéressait pas à ce que l'autre disait. Et c'est, moi, j'ai trouvé ça épouvantablement fatigant.
Oui, c'était. Oui, enfin, il y a eu des séquences plus ou moins intéressantes. Après, il faut dire que Valérie Ayé, c'est quand même très poussif, quoi. C'est vraiment des éléments de langage. C'est des slogans. Il y a vraiment pas de fond. C'est-à-dire qu'on sait pas vraiment quelle est la ligne de Renaissance. Elle est totalement illisible. Par exemple, les deux ont eu une petite discussion à un moment donné sur l'immigration. On ne sait pas quelle est la liste de Renaissance. Enfin, quelle est la ligne, pardon, politique de Renaissance, parce que.
Bah, je crois pas qu'ils le savent au gouvernement non plus.
Je pense qu'ils le savent pas au gouvernement non plus. Ça s'est vu à peu près pendant le vote de la loi immigration. On savait pas quelle était vraiment la ligne.
Quand vous avez ces deux pauvres petits gamins qui sont faits, l'une à tabasser à Montpellier, l'autre assassinée à Paris, vous écoutiez les gens de Renaissance ou de Reconquête, ou je sais pas quoi, de Renaissance, oui. C'était vraiment essayer de noyer le poisson. Quoi.
Ah oui, totalement. On a conscience que c'est arrivé.
Du moment où, je sais pas, mais je vais dire quelque chose de sot, mais en principe, quand j'étais jeune, le laïcisme imposait que l'école soit un lieu neutre. Mmh. Où en principe, si vous voulez, les professeurs ne parlaient pas d'opinion politique. On savait qu'ils en avaient, hein, parce qu'ils faisaient souvent d'autres choses. Mais enfin, ils ne nous imposaient pas en classe, enfin, c'était l'idée. Et même dans les écoles privées, on faisait très attention. Il y avait les cours de structure religieuse pour ceux qui voulaient, etc. Mais les autres n'étaient pas obligés d'y aller. Mais à partir du moment où on commence à tuer des gens dans les écoles... Il me semble qu'on a un problème qui est très grave, parce que moi, j'étais un cancre, hein, donc j'ai fait des tas de bêtises à l'école, mais l'idée d'utiliser la violence, soit contre un professeur, soit contre un autre élève, je faisais du bruit, je chahutais, je faisais des bêtises, dans le cours de dessin, je défaisais le siège du copain qui se levait pour aller.
Ça, on l'a déjà fait aussi. Enlever les vis des chaises ou des tables.
C'était marrant comme tout. Et mon frère, d'ailleurs, qui était à peu près aussi mauvais que moi, c'est un jour dans ce cas, le professeur a dit, s'il y en a encore une table qui bombe ou une tâche qui tombe comme ça, je colle celui à droite et à gauche. Donc mon ordure de frère, il se lève, il défait sa propre table, et quand il va se rasseoir, bien sûr, elle s'écroule, donc les deux mecs collent à droite et à gauche, alors c'était lui le coupable. Donc, non mais je veux dire, c'était des pas méchants, c'était des bêtises. On faisait ce qu'on appelait des monomes. Quand on allait en ville, j'ai été pensionnaire une année, on se traînait les uns derrière les autres en chantant des chants idiots au milieu de la ville et tout, mais les flics, elles nous disaient allez rentrer à la maison. Il n'y avait jamais la moindre violence, quoi. C'était pas... Et puis tout le monde déconnait en même temps, quoi. Il y avait... Donc autrefois, le chahut, c'était gentil. Puis je sais pas, il s'est passé depuis quelques années un truc. Et alors maintenant, on se met à faire des différences entre les élèves en fonction de ce qu'ils croient. Mais moi, quand j'étais en classe à Pau... Il y avait, je sais pas si vous voulez, en même temps que moi, il y avait un homme politique qui est devenu un homme politique qui s'appelait Emmanueli, qui était à gauche, et bon, puis il y avait un autre qui était un espagnol de l'armée en déroute, puisque ses parents étaient d'anciens républicains, mais on se mettait pas sur la gueule au lycée, quoi. Mmh. Il y avait la moitié du lycée qui était Algérie française, l'autre moitié qui était d'extrême gauche. Les discussions étaient parfois agitées, mais il y avait. Donc. C'est nouveau, cette montée à la violence qui a lieu dans la société aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, les gens deviennent violents.
Mmh. Et puis à l'école, évidemment, aujourd'hui, il y a la place de la religion aussi, notamment l'islam. Et le problème, c'est que nos politiciens ne veulent pas vraiment régler le problème de l'islamisme.
Mais quand j'étais en Algérie, les deux tiers de la classe étaient musulmanes.
Oui, mais c'était pas...
C'était nous les chefs.
Alors, je pense que...
Enfin, ils étaient contents d'être au lycée, d'apprendre, j'en sais rien, mais en tout cas, on n'avait jamais aucun problème, quoi.
C'est vrai qu'aujourd'hui, alors, toutes les enquêtes d'opinion le précisent, il y a quand même une importance de la place de la religion, notamment l'islam, chez les mineurs et chez les jeunes adultes musulmans beaucoup plus grande que ne serait-ce qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans.
Et pourquoi ils emmerdent leurs sœurs?
Je ne sais pas. Je ne sais
parce
pas.
Parce qu'apparemment, en fait... le petit gamin qui s'est fait tuer, c'est parce que celui qui avait 15 ans, là, il était en train de flirter, pas de flirter, mais d'écrire des lettres gentilles à une petite, petite été dans la cale avec lui. C'est le frère de cette fille et les trois autres qui sont venus le tuer.
Oui.
Parce qu'il racontait des bêtises à sa petite copine.
Oui.
Mais alors, Ronsard et tout, à mort. Enfin, c'est fou, quoi.
Oui.
Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait été close, sa robe de pourpre au soleil, a bien perdu. Enfin, bref. Vous vous dites, mais... C'est... Encore une fois, on a un effondrement de l'intelligence. On est en train de devenir de plus en plus...
Non, mais déjà, il y a une relation évidente, objective, entre le quotient intellectuel et le rapport à la violence. C'est-à-dire que le quotient intellectuel, ça vous oblige, en fait, ça va généralement aussi avec une bonne gestion de l'émotion, de la compréhension des émotions des autres, la capacité à se mettre à la place des autres, etc. Et effectivement, chez la plupart des individus violents, on mesure cette incapacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Il y a des phénomènes de bandes, parfois de mineurs, qui battent à mort ou quasiment des individus. Et lorsqu'on leur pose la question, mais par exemple, pourquoi tu ne l'as pas tué, certains vont vous dire, en fait, c'est juste parce que mon pote m'a rattrapé par la capuche, quoi, et m'a empêché de le faire. Mais sinon, ils n'ont aucune empathie, en fait, pour les victimes de leurs actions violentes.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand, dans une société, dans le fond, il y a plus... Parce que, imaginons, vous tuez quelqu'un, vous allez faire le malheur de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs qui sont retrouvés d'un seul coup, ayant perdu cette personne et tout. Donc, il n'y a aucun... Il y a aucune pitié pour ces gens qui vont souffrir à cause
Non, il y a aucune pitié. Pas l'idée selon laquelle peut-être on commet une erreur, parce que parfois, il y a la manière dont on voit les choses, il y a les choses telles qu'elles sont. Et parfois, on a une perception des choses qui peut être un petit peu biaisée, notamment du fait de notre position. C'est sûr, moi non plus, je j'aime pas quand il y a des garçons qui traînent autour de ma petite sœur. Bon, enfin, ça me viendrait pas du tout à l'idée de
la
de
question essentielle, c'est pas ce que vous aimez ou vous aimez pas, c'est est-ce que votre petite sœur est contente que des garçons aient autour d'elle? Probablement.
Oui, après, ça dépend. Donc, ça dépend desquels, parfois.
Des grandes égales, d'accord.
Elle est quand même bien contente d'avoir un grand frère au cas où ça se passe pas bien.
Mal, voilà. Non, mais parce que c'est... si vous voulez, une société dans laquelle les garçons ne peuvent pas tourner autour des filles, c'est pas...
C'est profondément ennuyeux.
C'est profondément ennuyeux, parce que si on doit tourner autour des garçons, on a vite fait le tour. Hein.
Oui.
Non, mais tout ça, c'est encore une fois un refus de la diversité, un refus de la liberté individuelle, un refus de... et une acceptation de la peur comme façon de dominer. C'est-à-dire que c'est vous qui faites peur aux autres, à la place de vous qui essayez de vous contrôler vous-même. Donc, c'est une autre forme de société, quoi. Donc, là, c'est celui qui a le plus gros bâton qui gagne, quoi. Mmh. Moi, j'aime pas ça du tout.
Oui, moi non plus. Surtout qu'il y a aussi des communautés en France qui refusent d'utiliser le bâton, d'autres qui le refusent un petit peu moins. Donc là aussi, on n'est pas tellement à égalité.
Mais c'est pas à la fin ce qui va se passer, c'est que les communautés qui vont refuser vont s'énerver, vont...
Donc, au bout d'un moment, on va pas avoir le choix. Oui.
Non, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des gens dans les communautés qui refusent, qu'on va... chargé de faire la police et de nous protéger, puisque la police ne le fait pas, on créera des polices parallèles avec des grands frères, là. Vous aurez des gros bâtons, et puis la nuit, vous ferez le pas. Vous vous baladerez dans le quartier pour être certain qu'on n'embête pas les petites jeunes filles qui rentrent chez elles, quoi, j'en sais rien.
Ouais. Mais,
donc, à partir du moment où il y a des gens comme ça qui émergent, que l'État ne fait pas son boulot, il y a automatiquement, me semble-t-il, des polices privées qui commencent à monter.
Le souci, c'est que dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, vous avez peut-être plus de chances de vous faire arrêter si vous faites vous-même la police privée. C'est comme l'histoire que vous racontez à chaque fois, c'est si vous appelez la police, vous dites voilà, je viens de me faire cambrioler, enfin il y a un mec chez moi, la police dit bon attendez, on arrive dans quelques instants.
La police, elle vous dit pas ça, elle vous dit dès qu'il est sorti, vous me prévenez. Oui. Pour qu'on fasse un constat ensemble.
Voilà. Et en revanche, si vous lui dites que le mec, vous l'avez attrapé et que vous l'avez mis dans votre placard, là, vous êtes sûr que les flics arrivent en 5 minutes.
Oui, si vous dites, il y avait deux cambrioleurs, je les ai tués tous les deux, vous avez tout le temps pour venir, ils sont morts, vous les voyez arriver, mais dans la seconde qui suit, quoi.
Ouais, mais c'est sûr, ça va pas tarder.
Mais c'est quand même... Moi, je suis... Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit souvent ici. On a quand même dans le monde curieux où il y a une espèce de réalité fictive qui n'existe pas, dans laquelle vivent ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre. Et puis, si vous descendez au niveau de la réalité réelle, si j'ose dire, là, ça se passe pas du tout comme ça. Et vous êtes jugé en fonction de l'image qui se fonde de la réalité fictive. Vous dites dans une seconde, la légitime défense, ça existe, mais pas apparemment, c'est... je sais pas. Il va falloir un jour que la réalité du droit et de la répression se mette sur la réalité du terrain et non pas sur les idées de ceux qu'on a chargés de nous policer, si j'ose dire.
Oui, oui.
Cette espèce de façon qu'a la classe dirigeante de vivre dans un monde à elle... et de nous juger en fonction des opinions qu'elle a du monde à elle, et c'est les médias qui sont très responsables. Mmh. Je sais pas si vous avez vu la petite, là, comment elle s'appelle, Mila, là.
Ouais.
On l'a forcée à dire des tas de choses au début, j'ai vu
effectivement.
Ça, c'était incroyable. On l'a forcée à débiter des âneries où elle s'excusait et tout. Et c'était les gars qui l'invitaient à l'émission qui lui demandaient de lire des papiers. Je crois qu'on a fait la même chose avec la mère de la petite fille de Montpellier. Donc, mais c'est extraordinaire que les médias soient à ce point qu'on se complice de ce mensonge d'État.
Oui. Bah, vous savez, c'est comme quand il arrive des horreurs. Il y avait eu l'affaire de la petite Lola.
Oui,
il y avait eu le Thomas Crépol. À chaque fois qu'il y a des choses comme ça,
on demande aux parents
personnes...
de venir expliquer
Alors, oui.
le contraire de leur expérience.
Tout à fait. Et à chaque fois, vous noterez que ceux qui dénoncent la récupération politique, généralement venant de la droite, puisque c'est en fait... on utilise un exemple qui illustre notre constat, quoi. C'est juste ça, la récupération politique. Eux-mêmes, à chaque fois, se chargent de récupérer les victimes. C'est-à-dire qu'on sous-estime à quel point, par exemple, dans le cas de l'affaire Lola, c'était très palpable, dans le cas de l'affaire Mila aussi, quand vous êtes une victime de cette société-là, vous avez directement tout un tas de gens qui vous prennent en charge. Des gens proches du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, etc. Et qui vous disent quoi dire. Et en fait...
Mais le père de Lola, il en est mort, d'ailleurs.
Le père de Lola en est mort.
Il y a 15 jours.
C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on essaye de vous rassurer, et c'est extrêmement intimidant pour ces gens-là, parce que vous vous dites qu'en disant ce qu'on vous demande de dire, peut-être que vous serez mieux traité, par exemple, par la justice, que vous aurez plus de chances d'obtenir ce que vous voulez, etc. Alors que si vous les envoyez paître et que vous dites uniquement ce que vous avez envie de dire, bah en fait, ça va pas bien se passer derrière. Et en fait, c'est à cause de ça, c'est très intimidant parce que par exemple, bah, justement, les parents de la petite Lola, il y avait quand même des postes qui remontaient à quelques années qui soutenaient la candidature de Marine Le Pen. Donc, on a envie de dire, bon, a priori, c'était pas forcément le couple le plus à gauche qu'on connaissait. Et d'un seul coup, après ce qui s'est passé de dramatique sur leur fille. Mais ils ont commencé à dire voilà, nous on veut pas de récupération politique, etc. Pareil avec l'affaire Mila, la fille elle avait 15 ans, non peut-être 16 ans, 17 ans lorsqu'elle a fait ses vidéos alors qu'il insultait l'islam.
Ce qui est un droit constitutionnel.
Ce qui est un droit voilà, totalement constitutionnel. Faut quand même se rappeler que bah, derrière elle a été justement entre guillemets prise en charge par tout un tas de personnes qui étaient proches de cette mouvance, du centre, proches de ce cercle de pouvoir, qui lui ont dit quoi dire, qui lui ont demandé de faire des vidéos, qui lui ont demandé de s'excuser, voilà, parce que peut-être ça lui permettait derrière de mieux gérer son cas, peut-être en justice, par exemple, pour toutes ces affaires de harcèlement derrière, il y a plein de gens qui ont été condamnés parce qu'ils ont harcelé Mila. Peut-être que ces condamnations ont été, comment dire, facilitées par le fait que elle dise.
Mais c'est extraordinaire ce que vous dites, parce que là, c'est un crime objectif, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui dit du mal d'une religion, on le menace, la loi prévoit ça, et il n'y a ni à améliorer, ni à essayer d'influencer la justice. C'est un cas qui est parfaitement clair, d'un droit constitutionnel qui est exercé par quelqu'un qui sait ce qu'il dit, enfin qui est jeune, mais qui sait ce qu'il dit. Donc, il y a des peines qui sont faites pour ça, et la liberté de parole doit continuer à s'exercer quand vous êtes face à l'État. Si vous avez peur de l'État et que vous écrasez, c'est pire que tout. On va tous se retrouver dans des camps de concentration si ça continue. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui nous imposent de modérer notre langage parce qu'au moment où on a subi un préjudice énorme, mentent en sachant qu'ils mentent et ils essayent de vous faire mentir.
Ouais.
Et ben ça, c'est l'œuvre du diable.
Oui. Et en
il
plus
faut
de ça,
dire la vérité.
Et pour le coup, là, je crois qu'on peut parler de récupération politique. C'est-à-dire qu'il récupère des gens, voilà, qui sont un peu dans
oui, qui sont dans le désarroi le plus total. Vous rendez compte, vous avez perdu votre fille, ou j'en sais rien.
Voilà, vous avez perdu votre fille, ou alors vous avez comme Mila, vous avez 16 ans, vous êtes menacé d'un seul coup par des dizaines de milliers de personnes.
De fada.
Voilà, complètement
et
fou.
En plus, elle était jolie, la pauvre.
En plus, oui, elle est plutôt mignonne, et en plus de ça, elle s'est plutôt améliorée, même physiquement. Et elle avait, pour le coup, vraiment rien de ce qu'on anticiperait comme étant la France, on va dire, réactionnaire. Mmh, c'est-à-dire que c'est une petite fille, une adolescente qui avait même, je trouve, plutôt un look d'adolescente de gauche, avec les cheveux colorés, etc. Qui a dit quelque chose qui, visiblement, n'est plus possible de dire, même si c'est défendu par la loi. Et elle a été objectivement récupérée par des proches ou par des personnes de La République En Marche qui lui ont dit quoi dire, par des personnes comme Caroline Fourest ou autres, voilà, ces rédactions.
Et que des gens des médias qui pensent que c'est leur devoir de cacher la vérité, de dire les choses autrement qu'elles se sont passées.
Ouais.
Ben moi, je trouve, si vous voulez, qu'un homme des médias accepte de mentir pour essayer de cacher le fait que les idées qu'il a eues depuis longtemps ne marchent pas, ben, s'il est pris, il doit, je sais pas, mais moi je serais le patron d'un groupe de médias, je virerais jamais un mec qui a dit ce qu'il pensait, mais un mec qui ment, sachant qu'il ment pour un but qui n'est pas celui que j'accepte, c'est-à-dire la diffusion de l'information, je sais pas, moi il me semble que... Donc ça veut dire, grosso modo, que la première chose qu'on doit faire en France aujourd'hui, c'est fermer toutes les radios publiques. Fermer les télévisions publiques, puisque c'est là que ça s'est pratiqué avec le plus de... Je vois aucune raison dans le monde de l'information parfaite dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et concurrentielle, pourquoi on devrait avoir une radio d'État, une télévision d'État.
Je suis d'accord.
Et si on doit sauver quelques milliards d'euros, mon Dieu... d'abord, on sauve à peu près 1 milliard d'euros de subventions faites par le gouvernement à la presse. Donc, c'est déjà ça.
Ouais.
Et puis ensuite, si on mettait tous ces gars-là, je crois qu'ils ont fermé tout ça en Grèce. Et ça marche pas plus mal. Donc.
Pareil, il y a eu une suspension des subventions en Argentine. Voilà, j'imagine que le journalisme va quand même exister, a priori.
Ben, d'autant plus qu'aujourd'hui, ça coûte rien d'aller sur YouTube et de monter votre système d'information.
Ouais,
si les gens veulent vous regarder, ils vous regardent.
Tout à fait. Surtout, bon, après, il y a plusieurs qualités journalistiques et il y a l'enquête qui demeure importante et qui parfois
est une qualité. Mais justement, on dissimule les résultats.
Tout à fait. C'est-à-dire que justement, aujourd'hui, quelle est la plus-value de la plupart des journaux? Finalement, pas grand-chose. Voilà, est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose de plus à apporter?
Donc, pour revenir à ça, pour moi, c'est essentiel. C'est quand même cette... mettons qu'il y ait une vérité objective qui peut être décrite de façon différente, mais qui doit être décrite. Mais s'il y a toute une partie du système d'information qui a comme seul objectif de vous empêcher ou de ne pas eux-mêmes décrire la situation objective... La société ne peut pas avancer, puisqu'on ne sait pas quels sont les problèmes, ils n'arrêtent pas de les cacher.
Ouais.
La première des choses, c'est quel est le problème. Si on vous dit qu'il n'y en a aucun, vous dites, tiens, c'est pas l'impression que j'avais eue en visitant Marseille.
Ou qu'on détourne le problème sur d'autres trucs.
Si on botte en touche, si on parle
par
de
exemple,
choses.
Par exemple, j'ai vu des gens expliquer, justement avec cette histoire, avec la ce qu'on appelle le crime d'honneur.
Mais on sait, par exemple, qu'en Hollande, il y a des dizaines de jeunes filles qui disparaissent et qui sont soi-disant retournées au pays.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont faites pour savoir si les petites sont là-bas, vraiment ?
Ouais, je sais pas. Faut se souvenir aussi, il y a quelques années, c'était l'affaire des gangs pakistanais en Angleterre, qui avait été couverte parce que...
Parce que ça aurait créé des problèmes à la société. Mais donc, qu'est-ce qui donne le droit à un homme d'information ? C'est exactement l'histoire de Jean Lacouture à qui on demandait pourquoi vous avez pas... vous saviez que à Phnom Penh, il se passait des trucs abominables et donc vous avez pas gueulé contre ça. Il y avait un génocide et il a dit c'est parce que le Figaro l'avait annoncé en premier.
Ouais.
Donc il y a des hommes d'information de gauche qui sont arrivés à un niveau très élevé. Si une information n'est pas dans leur sens, eh ben, ils trouvent normal de la cacher. Il ne faut pas désespérer Billancourt.
Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, parce que j'ai quelques idées arrêtées quand même. Il y a des personnalités, par exemple, politiques que je préfère à d'autres. Maintenant, ça ne me viendrait pas à l'idée d'œuvrer pour cacher des choses que les gens devraient savoir sur les personnalités.
S'il y a un politique que vous aimez qui a fait une saloperie, ben, vous en discutez tranquillement. Ouais. C'est pas assez simplement... Et c'est un truc qui me trouble beaucoup. Dans le fond, maintenant, il y a toute une partie des forces politiques, en particulier de gauche, qui... c'est comme cette histoire de ce... Comment il s'appelait le gars qui était le psy qu'on voyait à la télévision tout le temps, Miller, il s'appelait...
Gérard Miller.
Gérard Miller, qui donnait des leçons de vertu à tout le monde, et il y a plus de 50 femmes qui ont porté plainte. Mais elles ont porté plainte une fois qu'on a su que c'était une ordure. Où est-ce qu'elles étaient avant ?
Oui, c'est vrai, c'est assez
curieux. Parce que d'un seul coup, il y en a...
Et aussi, dans tous les papiers donc qu'on voit sur cette affaire, il y avait quand même tout un... C'est-à-dire que ça se passait en plein jour, parfois sur les plateaux, par exemple, de Laurent Ruquier ou autre, il y avait ce qu'on appelle un dispositif Miller. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui faisaient tout pour, en quelque sorte, recruter...
Lui présenter des jeunes victimes.
Lui présenter des jeunes victimes. Qui était à chaque fois dans les audiences des plateaux télé et dans le public et c'est-à-dire que forcément il y avait plein de gens qui étaient au courant, Laurent Ruquier lui-même était au courant, tout un tas de donneurs de leçons bien à gauche étaient au courant, bien féministes, bien contre les violences sexistes, etc.
Et les féministes, où elles étaient pendant ce temps-là?
Et là effectivement on a envie de dire mais où étiez-vous parce que là vous n'étiez clairement pas au bon endroit.
Donc, si vous voulez, on passe... Pour moi, c'est cette espèce, encore une fois, c'est cette histoire de truc de Solzhenitsyn. Il ne faut pas que le mensonge passe par vous. Donc, tous ces gens de gauche, le mensonge passe par eux avec une facilité. Et... Je sais pas, c'est peut-être pareil à droite. Il y a des gens qu'on protège de je ne sais quoi.
Peut-être, mais non, mais sûrement. Hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus à gauche qu'à droite.
Oui, mais c'est parce que la gauche a une espèce d'a priori favorable. Vous êtes pour le bien de l'humanité, mais je vois pas pourquoi protéger un type comme Miller. Et c'est le bien de l'humanité, quoi.
Ouais, pas du tout. Et par exemple, j'en suis vraiment persuadé. Si un type, s'il y avait un type comme Gérard Miller à droite, vraiment.
Ben on le descendrait.
Ouais. Oui, oui. Je serais très content qu'il soit traîné en justice.
Je serais le premier à dire, c'est pas sympa.
C'est juste normal, quoi.
Dans l'hypothèse où il m'aurait fait des avances, ce qui m'attendrait. Peut-être il y a une quarantaine d'années. Quand j'étais blond et mignon.
Ouais. Je peux vous dire, ça m'est déjà arrivé avec, comment s'appelle-t-il, avec Pierre-Jean Chalençon.
Ah oui ?
Ouais, ouais. Il a déjà tenté une après-midi. Oui, effectivement.
Il voulait du bien ?
Oui. Moi, j'ai quand même décliné de manière assez...
robuste ?
Assez robuste, oui. Ça ne l'a pas empêché de s'y reprendre quelques minutes après, mais enfin... Moi, j'ai eu l'impression
je suis
pour
un
le
peu
coup,
couillon, peut-être j'étais très vilain, mais je pense pas. Mais ça m'est jamais arrivé. Moi, j'étais. Ou alors je me suis rendu compte de rien.
C'est peut-être possible.
C'est pas possible. Parce que moi, j'avais plutôt tendance à regarder de l'autre côté.
Parfois, vous savez, il y a aussi parfois des filles qui sont intéressées, et puis nous, on le voit pas, ça nous passe au-dessus. Hein.
Oui, c'est pas. C'est
parfois, on voit pas tout. Hein.
On voit pas tout. Ouais. On voit pas tout. Voilà. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est ça. On revient toujours et toujours à comme cette utilisation du mensonge pour cacher la vérité. C'est pas grave de, si j'ose dire, c'est pas grave de mentir, si, mais mentir pour cacher une saloperie que quelqu'un d'autre a fait, je comprends pas.
Et pour mentir, pour entre guillemets, espérer défendre ses idées, c'est quand même très très bas, et je trouve que ça en dit long sur la confiance que vous avez en vos idées.
Moi, je
me sentirais particulièrement ébranlé, effectivement, si je me disais, pour protéger mes idées, je suis obligé de protéger telle ou telle personne, même si ça va contre mes valeurs.
C'est pas leurs idées qu'ils protègent, c'est leur position de pouvoir. Cette personne est importante dans la position de pouvoir que j'ai en ce moment. Donc, si elle tombe, je risque de perdre ma position de pouvoir. Donc, je défends pas des idées, je défends mon rond de serviette.
Ouais.
Donc la gauche aujourd'hui défend son rang de service avec beaucoup de fureur parce qu'elle se sent assez attaquée sur le plan des idées. C'est peut-être une idée qu'il faudra creuser un jour, mais je crois qu'elle n'est pas neuve.
Non, je pense qu'elle est, elle est quand même partiellement au moins recevable. Hein, parce qu'effectivement, par exemple, sur la question des violences tout court envers les femmes, par exemple, à la France Insoumise, quand même, ils sont bien garnis.
Oui.
Et alors, quand ils vous parlent de féminisme de manière un peu théorique, ils vous disent, faut croire absolument la parole des femmes, etc. Dès que ça va sur un député ou un presque député de la France Insoumise, d'un seul coup, non, mais on va faire une enquête, faut pas croire tout le monde, etc.
Il y a présomption d'innocence.
Alors, on va l'exclure 3 mois de l'Assemblée, et puis après, il va revenir, et puis on va faire comme si rien ne s'était passé. Voilà, à chaque fois, c'est toujours un petit peu comme ça, les dispositifs.
Ils arrivent à des contradictions. J'ai vu un truc qui était couillon, mais je vais le raconter quand même si ce n'est pas une bonne idée. Mais c'était une discussion dans une télévision américaine. Donc, il y avait un homme, qui était un joli garçon, puis une femme qui était très belle. L'homme posait la question, est-ce que les hommes et les femmes, c'est pareil? Alors la fille descendait, c'est exactement pareil et tout, il n'y a aucune raison, on est aussi bien, on bat toutes les conneries qu'on attend, les woke, là. Elle me dit, c'est intéressant ça. Donc, quand il y a un homme qui tape une femme, ça veut dire que si l'homme gagne, ça veut dire donc que c'est juste une bagarre qui a mal tourné.
Ouais. Et qu'il faut... C'est comme une bagarre d'homme à homme.
D'homme à homme, et donc il n'y a pas de raison de parler à ce moment-là. Il ne s'est rien passé, quoi. Donc si un homme tape une femme, s'ils ont la même force, s'ils ont toutes les mêmes capacités, il n'y a pas de raison de protéger les femmes.
En tout cas, pas plus que les hommes, en tout cas.
Pas plus que les hommes. Un homme qui tape une femme, c'est comme un homme qui tape un homme. Il n'y a pas de différence, quoi. Et la fille en face était embêtée, quand même.
Ouais. Non, bien sûr, évidemment que l'égalité totale de considération entre les hommes et les femmes...
Ceci dit, je voudrais pas me bagarrer contre la sœur Williams, celle qui a été la numéro 1.
Oui, effectivement.
Parce que je suis pas certain de gagner, là, mais...
Oui, elle a peut-être un redoutable crochet du droit, c'est une possibilité.
Non, je sais pas du tout.
Il y a tout un tas de combattants UFC.
Un homme qui tape une femme... C'est fini, quoi. On n'en parle plus, c'est une ordure.
Oui, oui.
Mais il est vrai que ça suppose donc que la femme est physiquement inférieure à l'homme.
Oui.
Et donc que ce n'est pas un combat armé égal.
Oui, oui.
Mais si vous réclamez à corps et à cri que vous êtes égaux, peut-être quand vous aurez soit mon âge, vous serez autorisé à taper les femmes.
Ouais, bon,
faut pas que vous le ferez quand même.
Ça fait pas partie de mes luttes, perso.
Non, mais c'est idiot ce qu'on dit. Mais on voit bien que réclamer des trucs qui n'ont ni queue ni tête, on finit par arriver à des trucs qui sont insupportables.
Ouais, oui, c'est sûr. Les féministes ignorent volontairement ou involontairement que malgré tout, dans ce qu'elles désignent comme une société patriarcale, il y a pas mal de choses qui sont quand même plutôt favorables aux femmes. Il y a plein de choses qui sont faites pour protéger les femmes. Elle pense que tout est fait contre elle. Évidemment, il y a des choses qui sont avantageuses envers les hommes dans plein de domaines, et elle se concentre là-dessus. Mais il y a aussi tout un tas de trucs qui sont plus avantageux pour les femmes, quoi. Et ça, c'est sûr, bah, si on est dans une égalité totale, on est obligé d'oublier les deux. Et à la fin, je ne suis pas sûr qu'on soit plus heureux.
Non.
Voilà. Donc, bah, on arrive quand même déjà presque à une heure de vidéo.
On a couvert pas mal de terrain. Mais l'idée de base, c'est encore plus on discute ensemble et plus on se rend compte que y a l'information et il y a le mensonge. Et moi, j'arrive à la conclusion que notre société, ou une partie de notre société, s'est emparée de l'information comme une façon commode de mentir. Mmh. Et ça nous mène dans des impasses partout.
Mmh. Effectivement, pareil, oui, il y a deux manières aussi de concevoir la presse. Dans un premier temps, d'ailleurs, quand on fait un peu une histoire de la presse, on voit que la presse est un peu battue contre l'État.
Ouais.
Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait
et pouvoir... Et contre le mensonge officiel.
Et contre le mensonge officiel, c'est-à-dire que voilà, le gouvernement dit un truc, oui, mais est-ce que c'est vraiment vrai? On va investiguer, voilà.
On appelait ça le quatrième pouvoir.
Voilà, c'est un peu ça. Tous les prix Pulitzer... Justement, c'est voilà, des enquêtes généralement contre des gouvernements. Le gouvernement a tenté de cacher quelque chose. Moi, j'ai fait mon enquête, j'ai réussi à trouver que le gouvernement avait menti, etc. J'ai montré
ce mensonge. C'était les dossiers secrets du Pentagone, tout ça.
C'est tout ça, et ça, c'est du journalisme. Et aujourd'hui, on a l'impression inverse. On a l'impression que, en tout cas, la plupart des journalistes sont là pour protéger l'État. C'est-à-dire qu'il y a des mensonges ou des quasi-mensonges
l'État
d'État.
Ou des pouvoirs en place qui ne sont pas toujours bien clairs. C'est-à-dire, vous avez aussi des grandes sociétés qui ont beaucoup d'influence sur l'État et vice-versa. Donc,
c'est
vous
vrai.
Les protégez. Vous protégez une partie des candidats dans l'État et vous dites le plus grand mal de l'autre partie des candidats dans les élections. Donc, ils sont maintenant devenus des alliés objectifs de la main d'une espèce, en effet, on l'appelait ça la pensée unique, voilà. Donc, comment la presse est-elle arrivée à trahir comme ça, par exemple, la liberté de parole? Aujourd'hui, vous avez des journalistes, comme ce crétin qui a lancé l'affaire contre CNews.
Ouais.
Vous avez, et qui demande la censure.
Ouais.
Des journalistes qui demandent la censure.
Avec l'argument selon lequel CNews, c'est pas comme BFM. En gros. C'est quand même assez hallucinant. On en a bien parlé de cette affaire. Reporters sans frontières se plaint que CNews, c'est pas comme BFM. C'est-à-dire que vous êtes pour la liberté de la presse, donc ça veut dire aussi une diversité.
Il n'y a pas de raison qu'ils soient tous pareils.
Bah oui. Est-ce que ça viendrait à l'idée de quelqu'un de se plaindre que Le Figaro, c'est pas comme Libération? Non, au contraire. Si tous les journaux avaient la même ligne éditoriale, la même manière de traiter l'information, ce serait horrible, ce serait une Pravda. Plein de gens se plaignent du fait que finalement, parfois, le traitement de l'info est presque pareil entre énormément de titres de presse. Mais alors, imaginez si on était obligé de les aligner encore plus, ce serait horrible.
Ça, la question. La question essentielle de notre société, c'est comment rétablir la liberté de discussion. Ce qui veut dire la liberté de faire de la peine à celui qui est en face, en lui disant ce que vous dites, c'est des grosses conneries, ce qui peut être vexant, mais si c'est, moi j'ai le droit de le dire, hein. Mm-hmm. Les autres aussi d'ailleurs, ça me gêne pas si quelqu'un me dit que j'ai dit des conneries. Et d'abord la liberté de discussion, la liberté de faire de la peine, la liberté de dire des trucs qui sont vrais mais qui heurtent tout le monde.
Ouais.
Voilà, j'en sais rien, mais donc si vous voulez, cette espèce de prime dont bénéficiait la voix discordante dans notre civilisation pendant très longtemps, eh ben, elle est en train de disparaître, cette prime, et ça m'inquiète beaucoup.
Oui, effectivement, c'est assez inquiétant. En plus de ça, c'est une garantie de la qualité de ses propres idées. C'est-à-dire que si vous n'êtes jamais challengé dans vos idées, si vous ne rencontrez jamais quelqu'un qui est en désaccord avec vous, vous pouvez penser n'importe quoi et penser que vous avez raison. Voilà,
et c'est très dangereux pour celui qui pense, parce que dans ma vie précédente, donc j'avais créé une société de gestion, et c'était moi qui prenais les décisions, après avoir parlé à tout le monde, etc. Mais au bout de 4-5 ans, j'étais complètement désespéré parce que, quoi que je dise, les gens étaient d'accord. C'était tuant.
Ouais.
J'étais affolé. À la fin, j'ai fini par vendre en disant ma société, mais en disant personne ne met jamais en doute ce que je raconte. C'est un gros con. Tandis que maintenant, dans celle d'aujourd'hui, si vous voulez, tout le monde a le droit de dire que je suis un gros con, d'expliquer pourquoi. Et puis, c'est plus moi qui prends les décisions, beaucoup de décisions. Mais je veux dire, une société dans laquelle le chef a toujours raison, ça va droit au désastre.
Ouais. Oui, c'est sûr, ça fonctionne tant que le chef a raison, sauf qu'il y a bien un jour où il a pas raison.
Je peux vous assurer que le chef, il y a des moments où il a pas raison, et à ce moment-là, tout le monde lui dit, bien, t'as bien vu.
Ça arrive.
Mais vous dites, mais qu'est-ce qu'ils disent quand je suis pas là? Que je dis que des conneries? Vous êtes vraiment inquiet.
Ouais.
si vous êtes vraiment inquiet, c'est la solitude du chef, en quelque sorte. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi j'ai tort. Et puis, il m'arrive de changer d'avis.
Mmh. Bien sûr.
Pas sur le fait que je ne vais plus lire Le Monde. Bon, ça fait longtemps que j'ai pris la décision. Donc, personne ne réussira à me convaincre de ça, parce que le fait de ne pas lire Le Monde me rend meilleur. Donc, ou Libération, d'ailleurs. Mais il y a des trucs sur lesquels on peut me faire changer d'avis, quand même.
Mmh. Bah, c'est quand même un signe de...
Mais j'apprends.
Oui, déjà d'une curiosité intellectuelle, de ne pas avoir peur d'avoir tort.
Et puis d'apprendre.
Oui, d'apprendre.
C'est-à-dire, j'ai rajouté un truc à mon déficit intellectuel qui, du coup, fait que les conclusions ne sont pas automatiquement les mêmes. Quoi.
Oui.
Par exemple, j'ai sur le libre-échange, j'ai été un libre-échangiste acharné. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'être trop libre-échangiste, ça accroissait de façon extraordinaire la fragilité d'une société. Donc il faut trouver, si vous êtes un gouvernement, une espèce d'équilibre entre le libre-échange et la fragilité de la société. Bon, mais ça, j'ai fait un progrès, là, non ?
Oui, bien sûr.
À la place d'être un théoricien acharné, boum, bon, il va falloir qu'on...
Il va falloir que, effectivement, que l'on termine cette émission. On est quand même quasiment à une heure. Bon, on a évoqué pas mal de choses. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Comme chaque semaine, hein, je précise que elles sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast également. Que l'Institut des Libertés existe sur la plupart des réseaux sociaux, sur X, anciennement Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook également.
Et qu'on est à 331 000.
Qu'on est à 331 000, effectivement.
Donc, arrive à 400 000. Je sais pas pourquoi.
Mais il faut. Voilà. C'est
de toute façon, voilà, il faut.
Il faut.
Voilà, on compte sur vous.
Voilà, il faut croître parce que il faut croître. Sur ce, bah, j'ai envie de vous dire, laissez un like si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, un commentaire également. Ça aide toujours au référencement de la vidéo, c'est-à-dire que la page YouTube vous la propose plus facilement lorsqu'elle a un haut taux d'engagement. Et n'oubliez pas évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, sur ce, je vous dis à très bientôt pour peut-être un nouveau.
Et moi, je vote pour qu'on rétablisse le pouce en bas. Parce qu'il l'avait au départ, je crois.
Effectivement, il l'avait au départ.
Il l'avait au départ. Et moi, je trouve qu'un monde dans lequel il n'y a pas de pouce en bas, eh ben, c'est pas bien.
Bah, c'est un peu comme un monde dans lequel, justement, personne n'a le droit de vous critiquer dans votre entreprise.
Voilà, je veux qu'on mette des pouces en bas.
C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, rétablissement du pouce en bas, mais ne le faites pas quand même. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt à l'Institut de Liberté.